Mais à un moment donné, je suis allé visiter quand ils ont construit l'usine ici à Québec, là, dans le parc, pas dans le parc industriel, c'est dans Vanier, en tout cas là, derrière l'entrepôt du hockey, dans ce parc-là, là, ils ont construit l'usine de Bagel Witch.
Le parc industriel. Ah,
ça, c'est le parc industriel, ça. C'est quel nom, non?
Vanier.
Parc Vanier, hein, c'est ça, Vanier. Hein? Filtre Plus est là, puis oui. Chocolat Favori, là. Caramel FA sont là. Et je vais visiter les Bagel Witch. Vous savez, les bagels rectangulaires, là.
Ça vaut la peine d'essayer, même si vous pensez que c'est un bagel juste rectangulaire. Non, ils sont vraiment bons.
Ils sont bons, puis en plus, parce que c'est le beurre de peanut qui coule pas dans le trou.
Oui, ah, absolument.
Tu comprends? Puis bagel, parce que
l'actionnaire... J'en ai acheté en fin de semaine. J'ai montré la photo de bagel à ma blonde hier soir. Je sais pas c'est quoi l'addon qu'on a, là, mais...
C'est la vraie photo à lui?
Non, sa photo qu'il y a sur l'emballage.
Ouais, mais hier, c'est,
ah oui,
c'est,
ça y ressemble,
c'est François, là, c'est
lui. Regarde comment il est immense, puis pense à ses doigts de pogo aussi.
Ouais. C'est 6 et 9. C'est un monstre.
C'est un
monstre. Il mesure 6 et 9. Il doit peser 3,25.
François, t'es un monstre. C'est ce que Stéphane vient de dire.
Physiquement. Hey, oui, écoute, c'était mon co-chambreur à Londres. Écoute, il dépassait du litre de 6 pouces sur la largeur et de 2 pieds sur la longueur. Et là... Je l'ai déjà compté. Les salles de bain à Londres, puis on n'était pas dans un trou, là. On était dans un hôtel, une chaîne, je me souviens pas c'est quoi. La salle de bain, tu sais, il fut une époque où les douches et les bains étaient toutes moulées en un seul morceau. Tu sais, dans certaines chambres d'hôtel au Québec, là, on voit ça, les daisines, même, t'as fait de même. C'est donc un moule, ça a les trois murs moulés, le plafond, tout est moulé, le bain, tout est moulé en une pièce. Ben, à Londres, la salle de bain, elle est moulée au complet. Ça veut dire que c'est le même moule, c'est comme une capsule en plastique qui a le moule de l'évier. Évidemment, du trou, pour là, la toilette est pas dans le moule. Là. Fait que, mais l'évier, le lavabo plutôt, le bain, la douche, le plancher, toute la salle de bain, elle est toute moulée dans la même shot de plastique.
C'est standard, c'est fait pour un gars de 5 et 10 de 177.
François, pour aller pisser, mettons qu'il voulait s'asseoir sur la toilette, Bagel, il fallait qu'il rentre de reculons parce qu'il pouvait pas se revirer. C'était impossible. Il fallait qu'il décide de quelle façon il allait sortir. Hey, c'était... Et là, je me souviens, on rentre dans la chambre, puis c'est la mode, hein, en Europe. Je pense que c'était ma première fois en Europe. Fait que là, on arrive à Londres, là, il pogne le téléphone dans la chambre, à la réception, en anglais, évidemment. Well! Il commence!
Il y a une voix qui va avec son corps.
Hey, on a deux lits simples qui sont pas des lits simples, qui sont comme des lits de camp. C'est ça. Ben, tu sais, je sais pas, j'ai de la misère à dire la largeur.
Tu étais dans un bon hôtel?
Ben oui, c'était une chaîne. Oh oui. Écoute, c'est la gang.
Ça vient décevant, un lit de camp?
Oui. Mais c'est parce qu'en Europe, dans les hôtels, il y a beaucoup de lits simples et beaucoup de petits lits. En tout cas. Et là, il appelle en bas, il dit. Il dit, je pense qu'il avait dit 800 livres. Il dit, on a à peu près 800 livres de viande dans la chambre, là. Ça marche pas en tout. Et tabarouette qu'on avait ri, on avait eu vraiment du fun. Fait que c'est tout un mono. Lui, il s'est toujours appelé Bagel parce qu'il y a Bagel traditionnel sur Maguire. Et il a fait fortune avec des bagels qu'une entreprise qui a créé et qui a vendu à Weston, si je me trompe pas, il y a un nombre d'années.
Oui.
Évidemment, il y avait une clause de non-concurrence. Et ensuite, il a lancé le Bagel Witch avec des associés. Et il m'a emmené visiter l'usine.
Hey, mais y avait-tu son idée avant de vendre?
Je sais pas. Faudrait-tu lui demander à lui?
Sans joke, c'est hot. Si c'est ça, parce que là, tu as une clause de non-concurrence, comme tu disais, puis tout ça, ça veut dire que tu fais germer ton idée, puis... Tu sais que tu t'en retournes dans le domaine du bagel, même si tu viens de vendre le domaine
absolument.
Du bagel,
c'est hot. Moi, j'en connais d'autres hommes d'affaires qui ont vendu.
Qui ont fait ça.
Je pense à un que je connaissais personnellement parce que c'était pas loin de chez nous.
Ouais.
Il y avait une entreprise qui avait connu beaucoup d'effervescence. Il a vendu. Ils ont signé une clause de concurrence de 5 ans. Après 3 ans, il savait très, très bien. Là. Lui, son idée était faite. C'est qu'il allait faire la même affaire, mais un peu différemment au goût du jour. Fait que après 3 ans de non-concurrence, sur une clause de 5 ans, il a commencé à faire élever à bâtisse à côté de l'autre.
Hey, ça, c'est visionnaire. Ça, j'adore.
Là, c'est pas des fous, là. Là, ils ont bien vu que qu'est-ce qu'il s'est fait là, lui. Puis là, c'est des portes de garage, des camions. Hein, qu'il fait là, lui? Fait que... Puis ça a pris, mettons, un an et quelques de construction, l'installation à l'intérieur, et quand ça a fait 5 ans et une journée, c'était l'inauguration.
Hey, ça, c'est business-wise, j'adore ça.
Ah, c'est
très
ça.
Bon.
Et Bagel, il m'a emmené visiter Bagel Witch, et... J'ai été assommé de voir comment on avait accéléré la cuisson des bagels par différentes technologies, mais qu'on avait accéléré le refroidissement suite à la cuisson. J'avais jamais vu ça. Et c'est accéléré parce que ça peut pas passer de cuit chaud à congelé. Ça va créer un problème d'humidité à l'intérieur du produit. Fait qu'il faut qu'il soit vraiment refroidi avant d'être congelé, s'il est amené à être congelé. Et c'est grâce au facteur éolien qu'on réussissait c'était une question de secondes, en refroidissant le bagel pour ensuite le congeler. C'était incroyable. Toute la technologie, le bagel, il rentre, là, c'est un immense spirale où le bagel, il monte ou il descend, je me souviens pas, là, et il y a un fan qui pousse de l'air extrêmement froide, et le fait qu'elle soit propulsée, ça refroidit encore plus vite, et là, le bagel sort en bas, et là, il est complètement refroidi et prêt, soit à être livré frais ou à être congelé. Là. Il y avait différentes façons de faire.
Fou, hein?
C'est vraiment intéressant. Moi, toute la technologie au niveau alimentaire, ça m'emballe. Tu sais, je vous disais que j'écoute une nouvelle série sur Historia qui s'appelle L'Amérique dessinée par la bouffe ou quelque chose de même. Puis hier, j'écoutais l'histoire des Pizza Hut. Je connaissais pas ça.
There's no football without the hut. C'est la meilleure pub, ça.
C'est vrai? Ah, ben, il y en a eu plusieurs. Tu vois, celle-là, je l'avais pas entendue. Mais ils ont eu beaucoup de choses qui ont changé l'histoire. Premièrement, les frères Carnet, Dan et l'autre, je m'oublie son nom. Les frères Carnet vivent, eux autres, me semble que c'est au Kansas. Eux autres, ils vivaient au Kansas. Et c'est au Nebraska qu'ils ont tenté la... Ouais. Fait que... Il y avait un restaurant qui a fermé. Ces deux jeunes, ils sont assez jeunes, 18 ans puis 20 ans. Puis ils ont rien à faire. Mais ils ont le goût d'ouvrir un restaurant. Puis là, tu sais, ils voient McDonald's. Hey, souvenez-vous, là, quand c'est ça, là, on est en 1958. Tu sais, là, souvenez-vous, Pascal, on se souvient pas de 58. Hein? Puis moi non plus. Fait que on est en 1958. Et il y a un des frères Carnet qui lit un magazine américain qui parle d'un produit italien qui commence à s'implanter à New York, mais qui est beaucoup trop cher et qui s'appelle la pizza.
Pizza.
Et qui est une pâte de pain avec une sauce puis de fromage. Tu sais, il y a même pas de viande à cette époque-là, il y a rien là, c'est uniquement ça. Mais et c'est uniquement des Italiens qui en font, puis ils en vendent à peu près uniquement des Italiens. On est en 1958, la pizza, là, il n'y a personne qui mange de ça aux États-Unis. Là,
la
presque.
Pizza américaine n'existe pas.
Là. Non, c'est ça. Et là, lui, il veut faire comme McDo. Puis comme il y en a deux à cette époque-là qui sont florissants terribles, c'est McDo et PFK. Eux autres, ils ont des. Là, il y en a un peu partout aux États-Unis. C'est en explosion. Il dit il faut faire la même affaire qu'eux autres, mais autre chose. Fait que là, ils ne savent pas trop quoi faire. Et lui, il dit moi, j'ai lu ça, une affaire. Fait que ils prennent une recette de, ils ont pas une scène en passant, ils sont tout nus dans la rue. Fait que ils ont en 1958 la valeur de l'argent était pas la même. Ils ont réussi à emprunter 600 piastres à leur mère. Donc pour emprunter le restaurant, le nettoyer et commencer à faire de la pizza sur une galette. Là. Tu sais, c'est un genre de pita. Là. Oubliez pas que quand la pizza naît, ça sera comme ça pendant presque 20 ans. Là. La pizza, c'est une galette plate. La pâte, elle lève pas pantoute. Il n'y a pas de croûte. Tu sais, il n'y a pas de croûte qui remonte. Il n'y a pas ça. Là. Donc, c'est une pâte bien plate. Ils mettent une sauce tomate, ils mettent du fromage là-dessus, puis ça part. Puis je pense que là, ils ont incorporé le pepperoni, puis ça part de même. Et ça marche. Puis là, le restaurant vient qu'à marcher très vite, dès la première année. Fait que y a un des deux frères qui décide de dire, j'ai une idée, on en rouvre d'autres.
C'est dur de faire un brevet avec ça.
Oui, mais ça a dû être fait. Mais il n'y a pas eu de brevet parce que toute leur vie, Pizza Hut, qui a été leur concurrent, tu penses?
Toi, tu me parles des années 50-60.
Des années 60, c'est là, surtout vers la fin des années 60, début 70, c'est l'arrivée de Domino's.
Oui.
Et Domino's vont leur faire bien mal. Parce que Domino's vont arriver avec une pizza un peu différente et avec la livraison. Oui. Fait que, mais ça, on va être des années 70.
La Pizza Hut avait quand même la croûte farcie, là.
Ouais, mais hey, tu vas trop vite. Arrivé. Tu vas trop vite. Ça, c'est un stunt, là. Tu viens de me brûler un stunt, mais c'est un stunt.
Ah oui, ça, c'est bon, là.
Ben, OK, moi, je connais moins ça, mais je savais pas à quel point. Vous allez comprendre. Okay.
Ah, ouais.
Mais là, je veux juste dire que ça ouvre en 58 un restaurant. Et ça va vite, vite, là, comme ça se peut pas. En 1960, deux ans après, savez-vous combien ils ont de restaurants d'ouvert? Ils ont 300 restaurants d'ouvert. Là, il appelle du monde dans tous les États. Et, hey, ouais, je connais un gars dans tel État, il a un peu d'argent, ouais. OK, on y vend une franchise. Ils partent un peu comme McDo. Fait que, en 1960, ils vendent des franchises et ça va très, très vite parce que, écoute, c'est en effervescence puis ça marche. Par contre, ça va tellement vite que, et les deux gars sont, un est un créatif un peu de la restauration, mais il connaissait rien là-dedans. Puis l'autre, ben, c'est le gars, le businessman, mais zéro un comptable. Et là, quand arrivent les années 70, ils s'aperçoivent que, les finances de l'entreprise vont extrêmement mal et qu'ils vont devoir restructurer et repenser. Et là, parce que Domino's est rentré dans le marché, puis Domino's avait lancé, quand ils ont lancé leur pizza, c'est livré chez vous en 30 minutes. Ouais. Fait que là, les autres, ils ont été complètement désorganisés de ça. Parce que rien que faire la pizza au restaurant, ça lui prenait 30 minutes. Parce qu'il taponnait à la pâte puis tout. Fait que là, ils ont décidé d'essayer, je l'ai compté un peu plus tôt dans l'émission. Ils ont acheté des scooters. Ils ont dit, dans ce restaurant-là, on va essayer de faire la livraison en moins de 30 minutes, nous aussi, puis en scooter. Fait qu'on va aller encore plus vite qu'eux autres. Mais ils n'avaient pas pensé que oui, ils ont fait ça au Nebraska. C'était l'hiver. Fait que là, ils ont eu des... Écoute, ça a duré que quelques semaines, puis ça a planté. Mais l'entreprise a continué à grossir et en 1976, ils ont 2000 restaurants à travers le monde. Parce que là, ils ont commencé à en ouvrir un peu partout. Les finances d'entreprise vont bien, ils ont redressé ça un peu, mais ils perdent du marché.
Ben, la pizza maintenant, il n'y a pas un restaurant qui fait pas de pizza quasiment.
Oui, c'est ça, il y en a partout. Puis Domino's est encore très, très fort, puis il s'implante partout, partout, partout. Donc, ces entreprises-là sont concurrentielles.
On attend que McDo recommence.
McDo, on a fait. McDo s'est essayé
ouais.
dans pizza.
Oui, puis on attend qu'il recommence pour vrai.
Là,
c'était bon.
Oui, vraiment. Mais là, les frères Carney voient leur entreprise qui, maintenant, financièrement, va bien. Ils ont 2000 restaurants à travers le monde. Et arrive un journée quelqu'un qui cogne à la porte.
À travers le monde, hein? Okay. À travers le monde? Ils
oui.
sont pas juste aux
États? Non, ils sont partout dans le monde. Il y a 2000 restaurants partout dans le monde. Donc, on est en 1976 et ça cogne à la porte. Il dit, nous autres, on serait intéressés à acheter vos Pizza Hut.
Oh!
Fait qu'il dit, OK, parfait.
Comment est-ce que t'es dans tes poches?
Et il dit, ça nous prend une décision quand même assez rapide.
Ben oui.
En 1976, et la personne offre 300 millions de dollars.
Bon.
Ce qui vaut
en 1976. À l'argent d'aujourd'hui, là, on parle de 1 milliard, pas et demi, là, mais 1 milliard 200 millions à peu près.
On a perdu ça plus qu'un milliard avec les Jeux olympiques de 76, d'ailleurs.
Oui, les autres, ils l'ont gagné. D'ailleurs, ils se sont achetés des îles avec ça. Les autres sont disparus dans la brume. Là. Ah. Ils ont encaissé les 300 millions.
Ils ont vendu.
Oui, ils ont vendu. À qui?
C'est monsieur, je sais pas.
À Pepsi.
Pepsi.
Oui, c'est PepsiCo qui a acheté Pizza Hut. Puis vous allez voir que dans l'histoire par après, Pepsi va acheter plein de chaînes de restaurants. PFK maintenant. Tu sais, parce que aujourd'hui, quand tu es aux États-Unis à plusieurs endroits, tu as un Pizza Hut, Taco Bell, puis un PFK.
Ils travaillent ensemble.
Ils sont dans la même chaîne. C'est dans même des fois dans le même local. Fait qu'ils sont unis comme ça. Bon, là, j'en arrive à des problèmes financiers. Encore une fois, parce que Pizza Hut est assis sur ses lauriers.
Parce qu'eux autres, ils font juste de la pizza encore.
Puis ils font juste de la pizza plate. Fait que là, à un moment donné, ils voient aller Domino's. Puis là, ils font de la pizza avec de la croûte, la Pam Pizza, oui. qu'on va appeler. Donc, une pizza à pâte épaisse. Puis on dit, nous autres, on va offrir les deux. Fait que ça, boum, ça redonne un autre boom à l'entreprise. Ça va bien. Mais là, les autres s'ajustent. Tout le monde s'ajuste tout le temps là-dedans.
On est quand, là, sais-tu, à peu près?
On est un peu avant la vente. Quand ils amènent la Pam Pizza, c'est les frères Carnet qui amènent la Pam Pizza. Je te dirais, fin des années 60, début des années 70.
OK. C'est géant, t'arrives
à
la pizza
carrée. Il arrive à deux pizzas, comme ça, la mince et la... Donc, la traditionnelle et la Pam Pizza. Puis, ils vont un bout avec ça. Mais là, la concurrence les rattrape. Puis, encore une fois, ils voient leurs chiffres diminuer. Là, Pepsi est rendu propriétaire. Ils voient leurs chiffres diminuer. Ils ont deux idées extraordinaires. Premièrement, ils vont lancer la pizza individuelle. Parce qu'avant, il n'y avait rien qu'un format. C'était une pizza que c'était à 8 pointes ou à 6 pointes. Je me souviens pas, là. Mais il y avait rien qu'un format. C'était de même partout. Eux autres, ils ont dit, hey, on l'a fait individuel. On a fait une petite. Fait que chacun commandera sa pizza. Et ça, ça a été un méchant.
Hey, mais côté argent, là, tu rentres bien plus de cash de même, c'est bien certain, tu sais.
Exact.
T'as un prix de départ qui est bien plus élevé. Ouais. Que... OK, très
pis
bon.
Là, ça continue. Encore une fois, tout le monde s'ajuste. Puis là, encore une fois, quand tu t'assis sur tes lauriers, qu'est-ce qui arrive à ton entreprise? Ça diminue, ça diminue. Pepsi, PepsiCo s'est rendu immense à ce moment-là. Là, je pense qu'on est dans les années 80. J'ai pas marqué l'année. Je m'en souviens pas. Et dans les années 80, PepsiCo dit, OK, on organise un brainstorm. Inviter des clients, des restaurants. Je veux mettre ça dans une salle.
Un focus group, là.
Un focus group.
Okay.
Fait qu'ils se mettent dans une salle, puis là, ils font un focus group. Puis là, là, c'est un ajouté de l'ananas à la pizza. Puis là, là, c'est là que, là, les variantes.
Cette personne-là aurait dû être envoyée.
Oui.
les variants arrivent de la pizza. Ah. OK? Et le dernier commentaire, ça a l'air d'un gars est vraiment bizarre, qui est là. Il est assis là. Il dit, en tout cas, moi, c'est bien correct, mais moi, mes croûtes, je donne ça à mon chien. Parce que j'aime pas ça. La pâte trop sec, puis la croûte sec, j'aime pas ça, je donne ça à mon chien. Et ce commentaire-là deviendra l'idée...
De la croûte farcie.
De la croûte farcie.
Très hot.
Elle dit, OK, tu donnes ça à ton chien, pourquoi? Elle me dit, bien trop sec, OK, trop dur. Souvent, parce qu'à cause, il y a eu un délai si je l'ai fait livrer, ou whatever. Et là, ils partent dans ce chemin-là, ils disent, OK. Et là, ça va prendre presque 3 ans à être capable de farcir cette joie le verre de croûte-là.
Il n'y a pas une grande croûte.
Hein?
Il n'y a pas une grande croûte avec eux autres.
Non, mais c'était de le faire à la chaîne.
Ah, je sais.
Puis il y a le bon fromage aussi. Je pense que c'est des ficellos qu'il y a dedans.
C'est ça. C'est des genres de ficellos.
Si tu mets du fromage râpé, là, elle va juste, le fromage va juste fondre à travers ta pâte. Il n'y aura pas un beau morceau de fromage.
C'est ça. Ouais. Et là, il lance donc la croûte farcie.
Et quiconque a déjà essayé de faire une croûte farcie à la maison, c'est ça.
Que ça se fait pas.
Que ça coule si c'est pas du ficello. T'as tout à fait raison.
Ficello, du fromage en grain.
Ah oui, c'est bon.
Sachez-le.
En mouton. Dans le fond, un fromage qui est en mouton. Très bon.
Dernier 2-3 petites anecdotes sur Pizza Hut.
T'as rien sa pizza carrée?
Y en a-tu encore, premièrement, des Pizza Hut à Québec? Y en a-tu encore?
À Québec, non.
C'est une bonne question.
Je pense plus, hein?
À Québec, non. J'ai bien eu de la peine. On allait là en famille quand on était jeunes.
Il y avait un genre de buffet, là,
oui.
Où on pouvait prendre la pizza, là.
Il y en avait un Saint-Georges. Je sais pas si c'est encore ouvert à Saint-Georges, mais ça, je sais qu'il y en avait un.
J'ai déjà cuisiné dans un Pizza Hut, moi.
C'est vrai?
À Repentigny. Je l'ai déjà raconté. On était en tournoi, puis oui. Mal pris? Il y avait un seul employé qui était le gérant. Il était tout seul. Mais un gars.
Pas le gérant de l'équipe, là.
Non, le gérant de l'équipe, il a cuisiné lui aussi. Et on est arrivé, oui, on gagne en demi-finale. Et là, il faut libérer nos chambres d'hôtel. On est à Repentigny. Donc, à midi, il faut être sorti. On joue en finale le soir. Je me souviens, c'est la journée où Bob Bissonnette tournait le vidéo basketball.
Okay.
J'ai le basketball, là. Fait que, parce que moi, je devais être l'entraîneur d'une des équipes de basketball dans le vidéo. Mais là, il est 18, on joue à 18h à Repentigny. Fait que je me souviens, j'appelle Bob et je dis, je pourrais pas être là. Fait qu'il dit, là, je suis bien mal pris, mais Bobby Barry, comme bouche-trou, il est très bon. Fait qu'il dit, m'a appelé Bobby Barry. Fait que c'est Bobby Barry que vous voyez dans la vidéo. En tout cas, tout ça pour dire que, fait que moi, je suis pogné à Repentigny. Là, on s'en va avec l'équipe pour dîner. Là, on dit, on va aller manger des pâtes où il y a de tout dans un Pizza Hut. Le gérant, il est là, il braille. Il n'y a pas de client. Puis là, on rentre d'une équipe d'hockey. Il dit, je peux pas rien, je suis tout seul, j'ai personne. Ben, il dit, et là, il y a un des parents qui dit, si on t'aidait, ben, il dit, OK, on essaie. Mais ils auront barré à la porte.
Il a été willing en tabarouette. Oui. Il n'est pas supposé dire oui, mais il a été bien.
Il a
été
dû
bon.
Faire financièrement pour lui tout seul
c'est
une bonne
ça.
Journée
ouais,
aussi.
Ouais, ouais.
Il a barré à la porte. Puis là, on s'est ramassé dans la cuisine avec tous les ingrédients. C'est quand même pas compliqué. Ouais, ouais, c'est ça. Fait que, on avait fait ça. Donc, Pizza Hut a été le premier restaurant à offrir des commandes par Internet. Puis ça, là, on est dans le vieil Internet, là, je sais pas l'année, là, mais vraiment, vraiment au début de l'Internet, par fax, genre, où quand ça... c'est ça. Là, tu peux coller ta pizza là-dessus.
Une pizza
là-dessus. Et ils ont fait partie des entreprises également qui ont essayé un changement de logo. Vous vous souvenez, Pizza Hut a fait un changement de logo stylisé.
Oui.
Et ça n'aura duré qu'une année à peu près. Ils sont revenus à l'ancien logo avec le toit des restaurants qui était un toit rouge avec un genre de
quasiment
de,
floridien là, comme, comme design.
On dirait un petit chapeau.
Ils sont revenus là-dessus. Alors, ils ont tout au long de l'histoire de cette... Mais c'est sûr que tu fais partie maintenant d'une très...
Hey, il est fermé à Saint-Georges en passant. Le Pizza Hut, c'est devenu un Salvatore.
Okay.
Il y avait un sur Amel aussi.
Oui, c'est là où il y avait le PFK, mais là, ils ont tout fermé, ils ont fait la bâtisse, puis le PFK rouvre tout seul.
Je sais pas si on serait déçu hein, d'en remanger.
La dernière fois que je suis allé, moi, c'était justement sur Amel, puis la croûte, puis la pâte était rendue pas comme à mon souvenir, c'est-à-dire qu'elle était sucrée. C'est bizarre, okay. Un petit fond de sucré dans la pâte, puis j'avais pas aimé tant que ça. Mais moi, j'ai des bons souvenirs de pizza. Il y en avait un sur Jean Gauvin quand j'étais jeune dans mon coin à Cap-Rouge, puis la pizza carrée québécoise, je me souviens clairement c'était quoi qu'on commandait, là, la grosse carrée avec des pointes carrées, puis québécoise avec du faux bacon, puis de la fausse saucisse. C'est des beaux souvenirs de jeunesse pareil, c'est niaiseux.
Je sais pas, là, on me dit peut-être qu'à Victo puis à Drummondville, il y en aura encore. Je sais pas, là. Faudrait vérifier s'ils sont encore ouverts. Mais ça fait partie, en tout cas, de toute façon, de la bannière PepsiCo. Et hier, à la fin du documentaire, ce qui m'a impressionné, c'est de voir le nombre de restaurants qui appartiennent à PepsiCo.
Ah ouais?
C'est incroyable. C'est incroyable, ouais, là, vois, le nombre de bannières.
Il y a des PFK, il y a des Long John Silvers, il y a des Taco Bell, il y a des IW. Qui appartiennent à PepsiCo.
Ça se peut, ça se peut.
Ça s'appelle Yum Brands maintenant.
La bannière de qui regroupe tout ça, là, l'entreprise financière.
La sphère, mettons, alimentaire, là, OK.
C'est, en tout cas, c'est bien hot, fait que je partage avec vous autres.
Et par texto, on en reçoit des bons aussi. Par exemple, celui-ci. Le mystère de la pizza, c'est celui-ci. Elle est ronde, elle est livrée dans une boîte carrée et on la mange en triangle. Tout ça, bon.
C'est très bon, c'est très, très bon. Plus tard cette semaine, je vous parlerai de l'histoire du hot dog. De Nathan, c'est un Polonais, je crois, qui a amené les hot dogs aux États-Unis. Et
ils font le concours de mangeurs d'hot dogs à toutes les années,
ouais,
maintenant.
Mais c'est lui qui a amené le hot dog aux États-Unis. Et pourquoi ça s'appelle un hot dog?
Chien chaud, fouille-moi.
Des retails de chien dans saucisse?
Non, parce que la population était trash. Convaincue que la saucisse, c'était de la bouffe à chien qu'on avait enveloppée en tube.
C'est vrai, dans plein de cartoons, on voit des chiens manger.
Les Américains refusaient de manger de la saucisse parce qu'il y avait eu
un job de marketing à faire.
Hein?
Il y avait un job de marketing à faire.
Ouais. Puis je pense qu'il a bien réussi.
Ils ont réussi parce qu'ils en vendent quelques roteux.
Puis où c'est né aux États-Unis? Hein? Un endroit que j'ai visité qui est, que vous devez aller voir, c'est né à Coney Island.
Coney Island.
En banlieue de New York. C'est un endroit exceptionnel. Puis là, je vous dis ça. On peut se prendre deux minutes pour parler de New York un peu?
Mais c'est là, je pense, le concours de mangeurs d'hot dogs.
Oui, je pense que c'est là, à Coney Island. Coney Island. C'est vraiment gros. Là. Il y a un parc d'amusement. C'est vraiment beau. Il y a la plage. C'est la plage new-yorkaise. C'est Coney Island. J'étais à New York la fin de semaine passée. 4 jours. Écoute, c'est ma ville préférée au monde, tu sais. Ben, j'ai pas vu les autres, pas vu Paris. Moi, j'aime ça à la New York. J'aime ça. Puis, tu sais, maintenant, j'y vais un peu plus comme un local. Il y a une nouvelle affaire que j'ai pas été. J'étais là, puis il y avait des billets. J'avais rien qu'à monter. Il y a un nouveau building qui est au centre de New York, mais vraiment sur le bord, plus sur le bord de la rivière Hudson. Il y a 2-3 nouvelles structures dans ce... Il y a le The Edge, là, qui appelle, vous taperez ça, Edge, là, c'est une nouvelle bâtisse qui est très architecturale et qui sert aux visites. Mais là, à cause de la COVID, je sais pas pourquoi, les visites sont juste le week-end, c'est très limité. Et à côté de ce bâtiment-là, il y a un édifice en hauteur, comme la ville de New York sait bien les faire, et il y a une terrasse extérieure presque au toit, là, un triangle qui est dans le vide
et
qui est vidré. Ouais, mais ça fait partie du même. Okay.
C'est la terrasse, là, gars.
La terrasse, c'est ça qu'on appelle The Edge. Puis l'autre bâtiment, hein?
Je veux pas aller là.
Hey, c'est en vert. Ah. C'est vrai que ça fait mal aux gosses quand tu regardes
aller,
en bas.
Je veux pas aller là.
Fait que, tu sais, mais aussi New York, c'est la restauration qui est cool. J'ai mis une photo sur Instagram, on est allé au restaurant Tao. Pardon, c'était notre première fois qu'on y mangeait. La première fois, on a juste pris un verre parce que c'était difficile d'avoir des réservations. Et c'est outstanding, c'est incroyable. J'ai mon chum Sébastien, lui, le propriétaire de pour nettoyer vos dossiers, parce que je veux le dire.
Identité Québec.
Identité Québec, qui était là en même temps que nous, qu'on s'est croisés au football. Puis lui, il est allé manger dans un de mes restaurants que Robert Dion m'avait recommandé, The Modern. C'est dans le Musée d'art moderne de New York. Il y a un restaurant là-dedans. C'est cher, mais c'est... Semble-t-il, j'allais dire à chier à terre, ça se dit pas, mais
non,
c'est écœurant. C'est belle de Modern à voir, mais dans autant dans Meatpacking que dans Hell's Kitchen, qui sont des quartiers, là, dans la petite Italie. La petite Italie, j'ai été un peu déçu, là, mais j'ai été déçu de New York. C'est ce que je veux vous dire, même si ça reste ma ville préférée. Je n'ai jamais vu de toute ma vie. J'ai commencé à aller à New York, j'avais peut-être 30 ans, un peu avant 30 ans. Puis après ça, je suis allé régulièrement plusieurs fois par année. Je n'ai jamais vu New York sale comme il était sale la fin de semaine passée. Puis sale, là, pas juste... Tu sais, vous savez, des fois, en fin de journée, tous les commerçants mettent les vidanges sur les trottoirs et c'est des montagnes de vidanges, mais le lendemain matin, il n'y en a plus. Mais c'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle des papiers dans la rue, des... puis parlez-moi d'un parc, là. Je peux aller marcher dans Central Park, mais tu sais, ça, mettons, c'est à 5e, là, où t'as tous les grands magasins où faut être millionnaire, d'après moi, pour magasiner là. Sauf, mettons, American Eagle, puis moi, Abercrombie, là. J'adore ça. C'est ma nouvelle chaîne, ça.
Ah ouais?
Eux autres, ils habillent les gros. Eux autres, ils respectent les gros.
Je suis quand même surprise, parce que souvent, il y a deux mannequins top shape qui sont à l'entrée de
magasin. Oui, mais ils font le beau linge qu'ils font pour les petits maigres.
Les gros, ils mettent ça dans le fond.
Ils en font pour les gros. Okay. Et je te dis, c'est inclusion. Vraiment... J'habille avec du X-large chez Abercrombie. Alors que chez Simons, 2X, ça me fait pas. Tu comprends? C'est un peu frustrant, là. Fait que les autres, ils respectent les gros. J'aime bien Abercrombie. Puis c'est
respect, man.
Respect les gros. Fait que il y a des papiers dans la rue. Il y a des gobelets de café. Il y a des... On dirait qu'il n'y a plus d'employés de la ville. Je le sais pas. Vous donner un exemple. Il y a presque plus de Uber en ville. Fait que là, les taxis qui ont été parqués, en guillemets, pendant 2 ans, ben c'est des brimbales. Tu sais, les Yellow Cabs, là, ça n'a jamais été reconnu pour étant des limousines. On s'entend là-dessus, là.
C'est plus une question de look, puis de savoir qu'est-ce
qu'il y a. Mais là, tu sais, c'est une banquette en cuir, refaite, puis, hey, chauffeur de taxi, c'est frappant, mais c'est là où on en est rendu.
On explique ça
comment? Écoute, j'étais à Times Square à Rowe. Je vais t'expliquer mon point, puis tu me diras ça. J'étais à Times Square à l'hôtel, OK? Je sors de l'hôtel, les taxis sont arrêtés là. Fait que là, il est arrêté. Fait que là, je m'approche dans la vitre, je fais signe, il baisse la vitre. J'ai dit, are you on duty? T'es-tu?
Bravo.
Il dit, oui, tu vas où?
Très bon.
J'ai dit, moi, j'allais jamais loin. Je vais à Madison Square Garden. Le soir qu'on allait voir Luke Combs. Ah, il dit, not for there.
OK.
Lui, ben, c'est pas loin.
Ride, lui.
Ben, ça passe pas loin. C'est en ligne droite, en plus. Mais ben, ça aurait coûté. J'aurais donné 10-12 piastres, je me souviens pas.
Et là, faut qu'ils se remettent en fil, j'imagine, après.
Ben, en fil.
Mais de toute façon, c'est sa job, il est taxi.
Ben, c'est ça. Je vous le dis, 2-3 fois, on s'est fait dire non. C'est pas, ça ne l'intéressait pas d'aller dans ce cas. Puis, probablement, comme, c'est, mettons, on allait souper à Meatpacking le samedi soir. Puis, on s'en va souper à Meatpacking au Tao. Ben là, il est 7h ou 8h. Ben là, il n'y a personne à ramener, là. Le monde, ils sont allés souper, ils sont pas prêts à revenir. Fait que là, ça n'intéresse pas trop d'aller virer là. T'sais, tout ça, là, est fait maintenant. Et puis, les taxis sont plus gratis. Tu sais, à New York, avant, un Yellow Cabs, tu flyais un taxi, t'avais pas de prime de départ. Un meter partait, tu débarquais, tu payais. Aujourd'hui, la prime de départ, si j'en ai pas eu 5 différentes à toutes les fois que j'ai pris des taxis, je n'ai pas eu une joie le vert. Ça a parti à 2,5 piastres. À un moment donné, il nous a parti à 4,5 piastres. Prime de départ.
C'est 3-4 piastres, me semble.
Je ne prends plus.
La dernière fois que j'ai pris le taxi pour aller à l'aéroport, ça a parti à 3-4.
On en a quelques-uns à l'écoute qui pourraient nous le dire.
Ouais, c'est mais.
Ça s'explique comment, ça?
Ben, la pénurie de personnel. La propreté de la ville, les taxis, les Uber, les services. Je mets ça sur une pénurie de main-d'œuvre.
Où les gens?
Mais les dirigeants, non? Ça ne nous tente pas de les blâmer?
Oui, tu as bien raison, probablement. Parce que là tu sais, New York, je regardais ça, c'est vieillissant. Je comprends qu'ils ont eu 2 années extrêmement difficiles, comme probablement partout dans le monde, et ils n'ont pas su, en tout cas à mes yeux, d'une visite de 4 nuits, tu sais, c'est pas 5 jours. Ils n'ont pas su être à la page ou, je sais pas, garder ça hot comme c'était hot. J'ai trouvé qu'il y avait peu de changements, je sais pas, il y a de la vie, il y a du monde, puis c'est le monde qui fait qu'il y a de la vie.
La pandémie a arrêté la terre de tourner quand même un peu,
t'sais,
naturellement.
Effectivement, puis les prix aussi. Tu sais, parce que dans l'autre côté, on a moins de services. Tu sais, pensez pas que, écoute, on était 3 nuits au même hôtel puis une nuit ailleurs. Pensez pas qu'ils sont venus faire la chambre, là. Puis ils ont amené des serviettes, là. T'sais, puis, mais ça me coûtait pas trop cher. J'ai pas payé si cher que ça. Mais là, j'ai regardé, on voulait y retourner pour défoncer l'année. Fait que j'ai regardé pour y aller, puis j'ai le même hôtel, et le même hôtel où ça m'a coûté, mettons, pour les 3 nuits, moins de 700 piastres, là, canadiens. Le même hôtel, c'était 700 par nuit. Fait que là, parce qu'à un moment donné, c'est bien beau, les débiles, là. mais il va falloir neutraliser un peu plus les l'offre et les prix qu'on fait aux gens. Fait que, en tout cas.
Pizza Hut fermé à Victo.
Ah oui, fermé aussi à Victo. Ouais. Donc, fermé, c'est une chaîne qui est en difficulté.
Qui resterait juste à Montréal.
Il y aurait Drummondville peut-être. Puis, mais c'est ça, c'est pas la chaîne qui est la plus représentée au Québec, c'est clair.
There's no football without the hut. C'est très bon, cet slogan-là.
Comment?
There's no football without the hut.
Ah ouais, c'est vrai. C'était ça, là, je me souvenais pas de
ready,
ça.
Set, hot, hot.
Ça, un des choses les plus fortes qu'ils ont lancées, c'est qu'au tout début des années 60, ils disaient que c'était un plat familial. Ça se partageait en famille. C'est tout le monde de la famille prenait une pointe de pizza, puis ils mangeaient une pointe de pizza. Puis avec ça, ils étaient...
Ça se mange comment, une pointe de pizza? Est-ce que tu la plies en deux, toi, Stéphane?
Non, jamais.
Il y a des gens qui n'ont pas d'âme et qui la plient en deux.
Et le slogan de la croûte farcie...
Tu peux plier... tu prends ta pointe, ouais, tu la plies comme ça.
Tu plies la croûte,
oui. Oui.
On a fait ça.
Si t'es toi? Comme ça, avec une main, là, oui.
Direct en face de notre hôtel, il y avait le Hiron Bar. Quand tu sors un peu de Times Square, il y a le Hiron Bar, qui est un bar vraiment le fun. Il y a toutes les télés de sport, la bouffe correcte, tu veux manger, grignoter des ailes et tout. Et on allait souvent finir nos veillées au Hiron Bar. Et après la veillée du lundi soir, après le 11, on est allé dans un autre petit bar proche du Madison Square Garden. Ensuite, on est allé au Hiron Bar, on fait la tournée. Puis là, on avait faim. Et on fallait manger une pointe de pizza là, dans la rue. C'était trop bon. Bon. J'ai tout dit ce que j'avais dit.
4,55 le prix de départ pour le taxi ici.
4,55. C'est quand même cher. Hey,
vraiment?
C'est vraiment. C'est pas mal plus dispendieux. C'est sûr.
J'arrêterai là. Dans
blanc.
3.
Un excellent blanc.
J'arrêterai.
Je t'aimerais lire un texto, là. Je peux savoir la peine quand j'ai un texto.
Moi, je peux-tu arrêter?
Puis un blanc à la radio, c'est plus comme si c'était mal vu, là.
Non, c'est très bon.
Oh,
c'est juste en faire plus, d'ailleurs. Je trouve qu'on en fait pas assez.
Tu trouves? On peut en faire plein. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Bon, je vais aller cracher dans la poubelle, j'en viens.